Bonjour, bienvenue à Aime l'été. Ici Chantal Lavoie, jeudi 20 juillet. Je vous invite à être des nôtres au cours de la prochaine heure. Une émission qui nous fait voyager à travers notre belle province. Un saut à Val d'Or, le temps d'un festival. Et un autre événement dans la région de Portneuf. Aussi, nos jeunes collaboratrices, recherchistes, chroniqueuses Anaïs Sabourin et Aya Jennifer Ando seront à notre micro aujourd'hui pour nous livrer leur chronique hebdomadaire. Soyez au rendez-vous pour cette pause détente du midi. Un été bien chargé, un été qui bouge, même s'il faut parfois négocier avec la météo pour que nous puissions passer du bon temps en cette période estivale. Voici Aime l'été. Et au menu de ce jeudi 20 juillet, donc, on s'en va du côté de Portneuf, plus précisément à Pont-Rouge, pour la 13e édition de Vacances en spectacle. Je reçois pour en parler Nathalie Lessard, coordonnatrice aux événements et au développement économique. Également, la chronique d'Anaïs Sabourin aujourd'hui fait le point sur ce que c'est qu'être handicapé. Et du côté d'Aya Jennifer Ando, notre autre chroniqueuse originaire de la Côte d'Ivoire, elle nous parle des questions auxquelles sont confrontés bien souvent les jeunes immigrants lorsqu'ils arrivent ici. Finalement. Et nous entamons notre rendez-vous d'aujourd'hui en allant vers Val d'Or où se tient le Frima, une belle fête de la musique qui s'ouvre. Alors j'accueille dans un instant Jade Bourgeois, responsable des communications de l'événement. Eh bien donc, oui, c'est ça, je voulais remercier d'entrée de jeu Méliane Fafard à la recherche de cette émission d'aujourd'hui et Nicolas Wartman à la mise en onde et au choix musical, hein, parce que parfois on arrive à la fin de l'émission, on n'a pas le temps de les nommer. Alors voilà, le nombre de festivals a littéralement explosé à Val d'Or depuis les 15 dernières années, animé par le dynamisme et la créativité de ses organisateurs, des événements qui sont toujours propices aux découvertes et au bon moment entre amis. J'accueille Jade Bourgeois, justement, responsable de la programmation du Frima 2023, un beau festival. On en est à notre 18e édition. Bonjour!
Bonjour Chantal, j'ai juste amené un petit bémol. Je suis pas responsable de la programmation, je suis responsable des communications. C'est
d'accord.
Mon collègue Jean-Philippe Charest qui s'occupe de la programmation.
Parfait. Alors de toute façon, vous êtes très engagé, très impliqué quand même dans ce bel événement. Alors et oui, 18e édition déjà, ça commence aujourd'hui même pour se poursuivre demain. Alors vraiment, c'est un beau rendez-vous. Et est-ce que j'ai bien lu, en fait, vous êtes de retour sur le site de la Cité d'Or?
Oui, exactement. Donc, c'est une deuxième année sur le site extérieur et intérieur de la Cité de l'Or, qui est une ancienne mine à Val-d'Or. Même, on a tellement décidé de l'habiter, ce site-là, cette année, qu'il va avoir un spectacle sous terre samedi. Donc, il y a quelques chanceux et chanceuses qui vont pouvoir aller voir Vanille embarquer dans les petits wagons avec leurs petits casques de mineurs, leurs lampes de poche, puis s'en aller voir ça sous la terre, là, un peu, exactement comme les mineurs.
Comme les mineurs,
dans
oui.
Dans nos communautés, là, oui.
Parce qu'en fait, juste une petite parenthèse, la Cité de l'Or, c'est le seul site historique au Canada qui plonge réellement le visiteur au cœur de l'exploitation d'une mine d'or, hein, qui fut parmi l'une des plus prolifiques au pays. Alors vraiment, c'est un village minier classé historique, hein, qui est encore habité aujourd'hui. Mais en fait, c'est ça, on y fait quand même, on y tient plein d'activités. Évidemment, on peut visiter tout ça. Alors, c'est vraiment ça, on pourra y revenir, bien sûr, mais en tout cas, là, vous en faites vraiment votre domicile.
Oui, exactement. Ça avait déjà été là par le passé, là, mais il y a déjà plusieurs années quand nous, on n'était pas là. On était pas mal jeunes, mais c'est une belle place. On a la chance d'avoir des salles qui sont assez uniques. Là, on a comme la réserve à minerais qui est un ancien entrepôt. C'est notre salle principale, mais c'est super beau parce que ça a été fait il y a très longtemps. On a aussi le salle du chevalement, les chevalements qu'on appelle aussi chasse de mine, donc les hautes tours. C'est là-dedans qu'on fait les spectacles de fin de soirée, puis les 5 à 7 qui sont gratuits. Donc ça, c'est super le fun cette année aussi. Mais oui, on est vraiment contents d'être de retour là.
Très intéressant pour un touriste aussi.
J'ai pas une grande malchanceuse, mais je pense que ça va continuer d'être à la Cité de l'Or.
Oui, c'est ça. Alors juste, je demande la même chose à tout le monde, parce que tout le monde, dans nos régions, on a souvent été touchés là, par des inondations, feux de forêt et tout, et puis toutes sortes d'événements climatiques et tout. Alors, cela dit, vous en êtes où du côté de l'Abitibi, là, du côté des feux notamment. Alors, ça se passe comment dans votre secteur, là, présentement?
En ce moment, ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a encore des feux dans le nord du Québec, donc c'est pas trop loin de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais pour l'instant, Ça va bien. C'est sûr qu'on a eu chaud dans les derniers mois. Ça faisait peur de savoir si ça allait avoir lieu. Ici, on est quand même chanceux. On n'a pas trop de problèmes avec les inondations, en tout cas à Val-d'Or. Donc, pour l'instant, ça s'annonce être un beau festival. Il va peut-être avoir un peu de pluie, mais si on est content, il n'y en a pas eu beaucoup à Val-d'Or cet été, de la pluie. Donc, c'est sûr qu'on aimerait mieux qu'il n'y en ait pas, mais comme les spectacles sont intérieurs, c'est pas trop grave, puis ça peut permettre aux forêts de souffler un peu, là.
Oui, effectivement, on en a bien besoin, bien sûr.
Oui.
Alors, le Frima, en fait, c'est une vitrine mettant en vedette les artistes de la relève de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Le Frima, bon, alors, l'acronyme pour... en fait, est-ce qu'on peut donner le nom complet? Qu'est-ce que ça signifie?
Eh oui, c'est le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue. Ce qui amène un petit jeu de mots avec le mot Frima, à cause du AP à la fin, là, les initiales de la région. Puis oui, justement, le Frima a toujours eu comme mission de mettre de l'avant les artistes de la relève de la région, mais aussi de l'extérieur de la région. Donc, c'est vraiment une place de découverte musicale. Puis c'est aussi une façon de propulser les artistes d'ici qui n'ont pas toujours les mêmes ressources, par exemple, que dans les grands centres. Donc, il y a un concours qui se fait depuis plusieurs années. Dans les trois dernières années, ça a pris une nouvelle formule, mais les artistes qui sont originaires ou qui habitent ici, en fait, peuvent envoyer leur candidature. Ça se passe habituellement aux alentours de l'hiver, le printemps. Puis, il y a un jury qui sélectionne. Cette année, il y a eu trois gagnants et gagnantes. Selon soit aussi le fit avec la programmation, mais aussi cette année, on a voulu y aller avec des personnes qui étaient encore plus de la relève pour vraiment sentir qu'on les aide au Frima. Puis, ça nous a même permis pour les 5 à 7 musicaux gratuits, offerts à Stylor, ouverts à tous. Mais ça nous a permis d'aller piger aussi dans cette banque de candidatures-là des deux artistes qui n'avaient pas gagné la formule traditionnelle, mais qui vont quand même se produire en spectacle. Donc, Marie-Rachel et Elliot P.
Mm-hmm.
Puis, ouais, ça, on est très contents. C'est un beau tremplin, c'est le fun, ça fait
mais
des
oui.
découvertes. Puis eux, ça leur permet de... Tu sais, par exemple, demain, Marion Lamontagne, elle va jouer avant Lisandre et Cœur de pirate. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer,
oh,
mais on espère qu'on
des
échanges. Mais oui, vraiment.
Ah, ben c'est ça qui vous distingue finalement des autres oui. festivals. Hein? Vraiment promouvoir, tout le monde veut promouvoir les artistes locaux, les artistes d'ici, bien sûr, mais vous, c'est vraiment au cœur de votre région et puis vraiment des noms qui, en fait, pour bien des gens, peuvent être complètement inconnus, mais évidemment, c'est une belle façon de faire connaître la relève. Alors, c'est vraiment un festival intéressant. Alors, oui, 18e édition, ça veut dire que oui, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Alors, vous
oui.
avez eu le temps de recadrer tout ça. Enfin, bon, les nouveautés, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui s'ajoutent?
Bien, cette année, on a vraiment voulu aller chercher d'autres types d'art, donc pas seulement la musique. Il va y avoir des spectacles de danse vendredi, samedi, durant les 5 à 7, des troupes locales. Donc, il va en avoir une de Rouyn-Noranda vendredi, puis une de Val-d'Or samedi. Ça va être durant les 5 à 7, donc tout le monde peut y assister. Il va aussi avoir une exposition d'art de Thomas Dussirou, qui est un jeune artiste valdorien, puis il va faire aussi une performance, donc il va faire une toile en direct durant la fin de semaine. Puis, on a la Fabrique culturelle, qui va avoir un petit kiosque de réalité virtuelle, on va avoir un service de bouffe. Tu sais, c'est des trucs qui avaient changé, comme l'organisation a pas mal changé dans les dernières années. On est comme la relève qui était avant festivalière avant tout, puis là, on a décidé de reprendre le flambeau du Frima. Donc, on essaie d'amener des nouveautés, d'ouvrir ça au plus de monde possible. Des gens qui penseraient peut-être pas venir au Frima, peut-être pas, comme justement, ils connaissent pas nécessairement les artistes. Des fois, c'est un peu plus difficile de convaincre des gens à faire des découvertes musicales, mais on essaie d'aller chercher en ratissant large. Puis aussi, mais ça permet de propulser pas juste la musique, mais justement aussi la danse, l'art visuel.
Oui. Étant donné que, bon, vous revenez sur le site de la Cité de l'Art, en fait, bon, est-ce qu'il y a quand même des aménagements pour les gens à mobilité réduite?
Oui, le site de la Cité de l'Art est accessible. Je pourrais pas dire si ça allait pour aller sous la terre, mais je crois que oui, mais je mettrai pas ma main au feu pour ça. Mais oui, c'est un site qui est accessible. C'est pas le seul festival qui se produit là. Il y a aussi le Festival d'humour qui est là depuis plusieurs années. C'est pas populaire. Donc, les gens à mobilité réduite peuvent venir nous voir. On va les acquérir, on va pouvoir les faire rentrer dans les salles sans aucun souci.
Oui, parce que finalement, il y a plusieurs festivals hein, qui se déroulent dans votre région. Alors, donc, il y en a tout au long de l'été. Évidemment, c'est une préoccupation constante là, pour tout le monde, pour tous les festivals, de pouvoir accueillir effectivement des gens qui sont à mobilité réduite. Mais vous êtes aussi un événement éco-responsable. Et puis bon, là, on parlait des feux de forêt, justement. Ben, vous en êtes vraiment pleinement conscient. Et puis à tous les niveaux, bon, alors vraiment, vous cherchez à vraiment... Enfin, que tout le monde pose des gestes éco-responsables. Alors, vous vous êtes
C'est
donné
sûr
une charte à ce niveau-là.
Ben oui, exactement. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Il y a des habitudes qui ont la vie dure puis qui se poursuivent, mais on fait vraiment du mieux qu'on peut et on a fait le plus possible. Puis ça se traduit aussi, par exemple, comme Osisko en lumière à Rouyn-Noranda qui va avoir lieu en août, qui habituellement est un festival de feux d'artistes. Je vais pas parler pour eux, mais qui ont décidé, justement, par solidarité avec les gens qui ont été touchés par les feux de forêt, de pas le faire. Donc, ça reste. Je pense qu'en région, on est conscient de tout ce qui se passe, partout, là, mais dans notre région, de tout ce qui se passe, comment c'est difficile, qu'il faut qu'on se serre les coudes. Puis ça marche aussi pour l'environnement, pas juste les feux, là, mais pour nous, c'est super important d'être le plus éco-responsable possible.
C'est ça. Donc, réduire la consommation en général, consommation d'énergie et tout. Alors, ça commence aujourd'hui. Alors, c'est le coup d'envoi, finalement. Bon, jeudi, le guitariste virtuose Simon Kearney. D'abord, juste, c'est ça, on va parler de Simon Kearney. On va commencer comme ça, oui, effectivement. Donc, parce qu'il y en a plusieurs, là,
Oui, on a une belle programmation, on a beaucoup. Justement, ça il va donner le coup d'envoi, le 5 à 7 d'ouverture qui... S'il continue en faire beau et qu'il n'a pas pu voir, ça va être au parc Albert-Dumais, c'est au centre-ville de Val-d'Or, en fait. Puis c'est un parc en plein milieu du centre-ville, sur la rue principale, puis en ce moment, c'est la vente trottoir. Donc, ça permet vraiment d'habiter, d'aller chercher peut-être un public qui ne viendrait pas au climat habituellement. Mm-hmm. Puis, c'est en collaboration avec la ville, donc on a des belles ressources, c'est super le fun. Ensuite, on s'en va à la Cité de l'Or pour le show principal du jeudi. Donc, on a l'artiste de la relève qui a gagné le concours de la vitrine, Émilie Bédard. Ensuite, on a un groupe aussi de la relève, mais avec quand même des figures connues là, dans le band Vendôme. Puis, c'est Petit Béliveau qui va clôturer la soirée. Donc, ça devrait être bien... on va sûrement bien danser.
On va s'amuser follement, c'est sûr. Le multi-instrumentiste acadien, le petit Béliveau, qui est maintenant assez connu. Alors, donc, ce sera bien amusant. Et puis, bon, parlons de la soirée du vendredi.
Oui, bien, vendredi, encore là, 5 à 7 musicales, mais cette fois-ci à la Cité de l'Or et non au centre-ville. C'est avec Marie-Rachel. Puis, vendredi, la particularité, c'est juste des autrices, compositrices, interprètes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes féminines au Québec, puis je pense qu'on est capable d'en mettre facilement sur nos programmations. Là, ça a comme à donner comme ça, mais on était super fiers. Donc, ça commence avec Marie-Rachel. Ensuite, on s'en va dans la salle principale à la Réserve à Minerai avec Marion Lamontagne, qui est autrice, compositrice, interprète, qui a gagné le concours de la relève. Puis, il va avoir Lisandre. Puis, il va avoir Cœur de Pirate. Donc, tout ça va être une très belle soirée. J'ai l'impression que ça va être comme en douceur, mais aussi en puissance, parce qu'il y a toutes comme des femmes qui font de la musique assez puissante, assez envoûtante, intense. Donc, je pense que ça va être super bon. Puis, il va y avoir un spectacle de fin de soirée là, dans la plus petite salle du Chevalement, donc à 11h. Puis là, ça va être Tabby Yosha, qui a une voix incroyable, là, vraiment comme de la soul R&B, c'est super bon. Puis ensuite, Virginie B, qui donne aussi tout un spectacle. Là, ça aussi, je pense qu'on va pas mal danser. Ça va être très bien.
Bon, alors toute une programmation que vous nous avez réservée. Alors des gens à découvrir, bien sûr. Et puis, bon, alors est-ce qu'il y a la formule, bon, par rapport au spectacle, gratuité et tout, là, je veux dire, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on doit se munir d'un passeport et tout?
Pour les spectacles gratuits, donc les 5 à 7 à la Cité de l'Or, non, on peut juste se présenter sur le site. Ensuite, comme les spectacles sont intérieurs, on va pouvoir filtrer, je veux dire, trier les gens qui ont acheté un billet. Puis ceux qui n'en ont pas acheté. Les gens qui n'en ont pas acheté ne vont pas rester sur le site un petit bout, là, peut-être pas toute la soirée, puis quitter. Mais on espère aussi que ça encourage des personnes à rester, à se procurer un billet, puis à voir le reste du spectacle qui va être très bon. Peut-être même qu'ils vont entendre les premières notes puis qu'ils vont se décider à « oui, je prends mon billet et je rentre ». Mais pour les autres, on conseille le passeport parce que c'est ce qui est le plus économique pour la fin de semaine. Mais sinon, il y a des billets individuels à la journée pour les spectacles. À la Réserve Minerai, puis pour les spectacles de fin de soirée, là aussi, c'est des billets séparés, mais ils sont quand même très économiques, ces billets-là.
Et puis, à découvrir la ville de Val-d'Or pour les gens qui s'y rendront. Mais bien sûr, n'oubliez pas, il faut absolument visiter. C'est cette ancienne mine. Alors, visiter, on peut tout visiter là, pendant la journée, finalement. On visite l'endroit pendant la journée, puis on a les spectacles le soir. Donc, visite des bâtiments de surface de l'ancienne mine, mais visite aussi, on a la chance d'aller sous terre également. Alors, vraiment très intéressant. Puis, on parle de l'âge minimum, on parle de 6 ans à peu près pour visiter les lieux. Alors,
oui,
voilà.
Exactement. C'est quand même très noir, là, sur la terre, puis un peu froid. Donc, j'imagine que
pour
les
bébés,
c'est peut-être moins leur tasse de thé, là, mais.
Oui, parce que sous terre, c'est à peu près 8 degrés. Alors, si vous êtes, si vous souffrez de chaleur, ben, peut-être une petite visite sous terre, ça va vous faire du bien.
Oui, ça va. Un petit rafraîchissement.
Alors également, ben, c'est ça. Donc, vous serez bien accompagné avec des guides et tout. Et puis, ben, le soir, il y a cette belle programmation. Alors, ben, écoutez, merci infiniment d'être venu nous en parler,
merci.
Jeanne Bourgeois, responsable des communications. Alors, c'est le Frima, c'est une belle vitrine là, qui met en vedette les artistes de la relève de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Une grande variété de spectacles. Ben, bien sûr, un moment chaleureux, festif à ne pas manquer. Alors, je remercie beaucoup d'être venu nous en parler.
Bien, merci à vous de m'avoir invité.
Oui, et on se croise les doigts pour la météo, mais de toute façon, comme vous le dites, ce sont des spectacles extérieurs, intérieurs, c'est-à-dire, alors, ça ne devrait pas poser de problème.
Oui, exactement, on est à l'abri de la pluie. Peut-être juste pour les gens qui vont aller à la salle de bain, on doit aller à l'extérieur, mais on ne s'attend pas à de grosses averses.
Il n'y aura pas de déluge. Bien, merci beaucoup, non. Au revoir.
Bien, merci Chantal, au revoir.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'autre. Je l'ai connue trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse. Ça ne change rien, j'ai resté de ses mains. Le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire, il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie avant l'ombre.
C'était Kyo en collaboration avec Cœur de Pirate qui nous présentait une dernière danse.
Qui sera? Elle sera donc au Frima, Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue, à Val-d'Or plus précisément, en fin de semaine. Voilà, et puis bon, ben, j'accueille mes deux chroniqueuses, Aya, Jennifer Ando. Bonjour Aya.
Coucou.
Et Anaïs Sabourin, bien sûr, qui sera là aussi. Tu vas nous parler, en fait, dans un deuxième temps, tu vas nous parler d'un sujet, en fait, fort intéressant, à savoir, bien sûr, un sujet qui te concerne. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un handicap, finalement?
Exactement.
Alors, vraiment, ça, ce sera intéressant. Et puis, toi, de ton côté, Aya, on va parler, effectivement, de toutes ces questions qui, en fait, ces questions bêtes, entre guillemets, là, auxquelles on est confronté quand on est une jeune immigrante. Alors, que ce soit à l'école ou ailleurs, parce qu'évidemment, c'est partout. On a toujours des idées. On est étonné, je pense même, des questions qu'on nous pose quand on est originaire de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. Finalement, les gens ont des idées préconçues. Puis, évidemment, c'est sûr que, surtout quand les gens ont... Ben, les jeunes, particulièrement, peuvent avoir, par méconnaissance, peuvent poser des questions, mais pas que les jeunes aussi.
Oui.
Il y a des professeurs.
C'est pas que des jeunes.
Oui, c'est ça. Alors, d'une part, je voulais juste avant d'amorcer vos chroniques, juste dire qu'on a d'autres beaux festivals, effectivement, du côté, on a parlé du Festival Frima. On en a de beaux qui s'en viennent aussi, Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue, du 26 septembre au 1er octobre. Il y a eu le Festival d'humour, bien sûr, on en a parlé, mais il y a le Festival de musique trad aussi de Val-d'Or, du 1er au 5 novembre. Alors, évidemment, on est très actifs de ce côté-là. OK. Alors, Aya, parle-nous de toutes ces questions bêtes que tu as, auxquelles tu as peut-être toi-même été confrontée.
Oui, c'est vraiment des questions auxquelles j'ai été confrontée.
Bon.
Parce que, comme on le dit dans le système québécois, quand je suis arrivée dans le système scolaire québécois, les professeurs, ils disent le plus souvent aux élèves, il n'y a pas de questions bêtes. Posez-les, je vais vous répondre. Mais c'est vraiment dans le système scolaire que tout ça peut vraiment marcher parce que dans un autre contexte, moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, les professeurs, il fallait vraiment tourner 7 fois ou même 10 fois la langue avant de poser une question parce que tu ne voulais pas paraître stupide aux yeux des autres élèves.
Ah,
puis ici, je pense
d'accord.
que tout le monde, il pose comme il veut. Là, puis...
Oui, c'est ça. Donc, dans ton pays, je veux dire, on vous disait déjà de faire attention.
Oui, faites attention.
Ben voilà. Mais ici, tu as remarqué qu'il y avait une certaine... on s'était pas appliqué ça de tourner, on dit 7 fois la langue... dans notre bouche, là, avant de poser une question, avant de parler, c'est ça, c'est pas toujours appliqué.
oui, c'est ça. Donc, moi, par exemple, j'ai fait une catégorie de questions gênantes que j'ai été confrontée. Donc, là, il faut comprendre le contexte déjà. Donc, je discute avec une personne, puis je lui dis déjà que ma ville natale où j'ai habité en Côte d'Ivoire, c'est la capitale. J'ai habité dans la capitale, donc c'est vraiment une métropole. Là, c'est grand.
C'est grand, tout, c'est une
c'est,
ville.
C'est comme Montréal.
Exact.
Donc, l'électrification, tout y est. Et la question que les gens m'ont posée, c'est est-ce que tu vivais dans une case? Les cases, c'est des huttes. Là,
des petites huttes, exactement, comme on voit dans certains documentaires. Oui,
oui. Puis je suis comme, ben non. Tu sais, j'ai tout juste de dire que c'est un milieu urbain. Donc, vraiment, et même dans les villages, c'est pas des maisons, c'est pas des cases qui sont... Les maisons sont vraiment comme faites en ciment, en béton. Donc, c'est cette idée-là, je sais pas vraiment où ils l'ont pris, parce que même moi, je suis allée une fois chez ma grand-mère au village, puis pour moi, c'était totalement encore comme une ville, là, sauf que...
C'est une sorte de banlieue, finalement, équivalente, avec des maisons peut-être différentes des nôtres, mais qu'importe, ça n'a pas d'importance, oui.
Donc, pour moi, j'ai répondu... Il y a des moments où je répondais vraiment comme... Je vais donner la réponse. Puis finalement, ils me sortent encore une autre affaire. Est-ce que vous vous baladez nu en Côte d'Ivoire?
Oh, OK. Vraiment, c'est sérieux. C'est fou, hein, parce que là, vraiment, tu nous dis ça, puis c'est vraiment des questions
qui ont été posées.
Ah là là.
Et je suis comme, pourquoi tu poses cette question-là? Je veux comprendre. Puis lui, cette personne-là, c'est sa seule idée de l'Afrique, c'est lorsqu'il a regardé Kirikou.
Ah, OK.
C'est dans Kirikou, comment c'était?
On parle de loin, oui.
On parle de loin, là. Je suis comme, non, vous ne se baladez pas nu en Côte d'Ivoire. Une autre question. Avez-vous des voitures chez vous?
Ah.
En contexte, je viens de te dire que c'est une métropole, que c'est pareil comme Montréal.
Les gens ont un peu de difficulté des fois avec la logique des choses.
Oui, c'est ça. Donc, moi, je commence vraiment à être troublée quand on me pose des questions vraiment un petit peu bizarres, surtout que le contexte est là et que je donne les caractéristiques de mon pays.
Ouais.
Et comment tu fais pour aller à l'école? Je fais comme des autres comme personnes comme toi. Jeunes, oui, comment tu fais pour aller à l'école? La même manière.
Mais et puis là, tu me dis que c'est pas que des jeunes, on peut comprendre que des fois des jeunes, ben parce qu'ils ont pas tout le, ils ont pas nécessairement tout le bagage là, c'est-à-dire que par méconnaissance, mais c'est pas nécessairement le cas.
Non, ça peut être
des adultes aussi.
Ça peut être des adultes. L'adulte, j'ai été déjà posé la question. Avez-vous internet chez vous ou avez-vous de l'électricité?
Ah mon comme... Dieu. Ouais.
Mais oui, il faut savoir que la Côte d'Ivoire c'est le troisième plus grand système électrique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement ivoirien, il travaille en ce moment à faire du pays une hub régionale d'électricité. Et en même temps, ils ont la capacité de répondre à ses besoins à lui-même, donc les besoins de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il va exporter le courant.
C'est ça. Donc, une espèce de plaque tournante où là, vraiment, l'électricité est concentrée et repart ailleurs, est exportée.
Oui, c'est ça. Donc, on a le pouvoir de faire ça. Donc, c'est pas vraiment comme un pays qui a pas les moyens ou qui n'a pas d'électricité. L'Internet, on a ça. C'est juste que c'est différent comme d'ici. Si on ne paye pas un forfait par mois, des fois, tu peux le payer par jour, puis ça te revient un petit peu cher, mais il y a ça. Donc, on a tout ça. C'est pas... faut pas juste regarder les documentaires de National Geographic qui vont vous montrer la pauvreté, la famine ou des affaires. Oui, il y a ça, mais il faut voir aussi qu'il y a un beau côté, parce que moi, je regarde souvent des vidéos sur YouTube où il y a des commentaires qui ont vraiment des idées préconçues qui sont là.
C'est ça.
T'arrives pas à croire qu'une personne, il a vraiment cette idée-là de l'Afrique. Lui, pour lui, ben c'est juste des cases. C'est juste genre du sable là-bas. Il y a rien.
Ouais,
là.
Vous marchez nu-pieds.
On marche nu-pieds.
Ou pieds nus, enfin, ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Sinon, il y a plusieurs pays qui ont vraiment beaucoup, 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 beaucoup de
d'idées préconçues.
Non, je veux dire, les pays de l'Afrique, ils ont vraiment
développé comme ici. Là.
Oui, c'est vraiment développé comme le Nigeria, il est riche en pétrole. C'est l'un des pays de l'Afrique qui est vraiment riche en pétrole. Le Ghana, qui tient son économie des ressources telles que le bauxite, l'aluminium et les productions de cacao. Et aussi la Tanzanie. La Tanzanie, qui est le premier pays de l'Afrique de l'Est à fabriquer des câbles à fibre optique. Mmh. Au niveau continental, il est le troisième. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui, lui, il tient sa recherche de l'agriculture, le premier producteur de cacao et de noix de cajou. Donc, même si des personnes ne voient pas tout ça, mais il y a des grandes avancées technologiques aussi en Afrique. Puis genre, on le montre pas vraiment parce que tout le monde regarde les documentaires de National Geographic ou... C'est juste ça qui monte.
Ben, je comprends.
Tu peux juste faire une recherche Google, puis voir.
Il faut éliminer toutes ces images. Parfois, c'est très, très, très belles images. Néanmoins, oui, on parlait du National Geographic, mais enfin, c'est parfois, on nous montre des endroits un peu éloignés, vraiment, des endroits où à peu près déserts. Bien sûr, il peut y avoir des gens qui y vivent, mais alors de façon rudimentaire, mais c'est comme partout dans le monde.
Oui, c'est ça.
Même ici, on peut aller, c'est sûr, si on va dans l'idée de ma cabane au Canada, tu sais, c'est un peu le même principe là, pour les Européens, les Français, qui pensent qu'on vit, les Autochtones vivaient sous des tipis, enfin,
oui,
encore.
Oui.
Voilà. Alors, ben écoute, on s'arrête le temps d'une pause et puis je reviens avec vous, Aya, Jennifer, et puis Anaïs, tu nous parleras, toi, Anaïs, évidemment, de ton sujet. Après la pause, on revient. Restez là.
Vous écoutez Aime l'été.
Et là, c'est le temps de parler à Anaïs. Oui, c'est ça, notre autre chroniqueuse, recherchiste, enfin, qui, les deux, d'ailleurs, qui sont toujours à notre micro le jeudi. Elles se partagent, effectivement, une chronique. Et puis, voilà, on parle avec Anaïs, cette fois, de ce qu'est exactement qu'être handicapé. Enfin, c'est une question qui vaut la peine, qui vaut la peine d'être répondu correctement, enfin, surtout par quelqu'un qui est en fait en situation de handicap comme toi, en fauteuil roulant. Mais bon, comme on a toujours dit, c'est pas ça qui vous définit de toute évidence. Hein. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Évidemment, la vie des personnes handicapées qui est souvent parsemée d'obstacles. Mais bon, alors, je te lance la question. Qu'est-ce que c'est exactement qu'avoir un handicap?
Oui, bien, en fait, comme Chantal, tu l'as dit, c'est une vie qui est parsemée d'obstacles. Oui, je pense que ça, on ne peut pas le nier. Ça fait partie de notre vie quand on a un handicap. Peu importe ce qu'on fait, je pense qu'il va y avoir des obstacles dans notre quotidien. Est-ce que ces obstacles-là sont insurmontables? Pas nécessairement. Parfois, ils peuvent l'être dans certains contextes, dépendant du handicap, de l'autonomie de la personne, des atteintes de la personne. Puis, il y a des petites actions là, qui peuvent paraître simples. Je vais vous donner quelques exemples dans mon cas. Moi, pour moi, attacher des lacets, attacher mes cheveux, tout ça, là, c'est des petites actions qui sont des fois... Ben, en fait, attacher mes lacets, moi, je suis pas capable. Ça peut avoir l'air super simple, mais au niveau motricité, je suis pas capable de faire l'action d'attacher des boucles. On a essayé de me l'apprendre de mille façons. Ça n'a jamais été possible. Donc maintenant, je demande à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Mais c'est sûr que pour le commun des mortels, comme j'aime dire, là, ça a l'air quelque chose d'assez simple, mais je pense que pour les personnes handicapées, il faut pas vraiment considérer ça comme acquis pour tous. Mais je pense qu'il faut, avant tout ça, limiter un petit peu c'est quoi un handicap d'une limitation.
Parce que ouais, faire la part des choses.
Exactement, c'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Donc le handicap, c'est vraiment des limitations qui sont permanentes très souvent, puis qu'ils vont limiter les possibilités d'interaction avec un environnement. Que ça soit des limitations intellectuelles, des limitations physiques comme moi personnellement, auditives, tu sais, il y en a de toutes sortes, là, on les passera pas toutes aujourd'hui. Mais pour ce qui est d'une limitation en soi, c'est une incapacité de faire quelque chose qui peut avoir des impacts sur la vie, mais qui n'est pas nécessairement permanent et lié à un handicap quelconque. Donc toi, par exemple, une journée, tu peux avoir une limitation pour te lever debout parce que tu as mal au dos, mais ce ne sera pas nécessairement un handicap.
Exact. Tu as bien raison.
Exactement. Donc, je pense qu'il faut comprendre ça puis vraiment pas confondre ces deux éléments-là parce que c'est hyper important. Puis, la limitation, elle est imposée par une société qui est pas bien adaptée aux personnes handicapées. Je pense que ça, c'est l'élément le plus important. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de choses qui sont mal adaptées aux personnes handicapées au quotidien?
En ce moment, je dirais le métro.
Oui!
Oui, entre autres, effectivement. Quoi qu'on essaie d'apporter des améliorations, oui. D'avoir des ascenseurs et tout, alors d'adapter tout ça. Mais effectivement, on a parlé beaucoup aussi de pourquoi pas déjà, en fait, construire des rampes au lieu de construire des escaliers.
Oui.
Tu sais, de l'intégrer déjà. Bon, dans une construction neuve, par exemple, alors, bon, déjà, ça règle tout de suite un problème parce que, bon, nous, les gens qui sont pas, qui n'ont pas cette limitation, ce handicap, enfin, bon, ça pose pas de problème d'avoir une rampe plutôt
exactement,
qu'un
exactement.
Escalier.
Moi, je trouve ça totalement... ça me consterne, en fait, de voir qu'il y a des bâtiments encore aujourd'hui qui sont construits et qu'on ne met pas une rampe, un ascenseur, quelconque système là, pour permettre à tous d'y accéder librement. Moi, pour moi, c'est inconcevable qu'en tant que société, on se dise pas que tout le monde a le droit d'accéder à ce bâtiment et quelconque soit le bâtiment. Le métro, c'est le meilleur exemple. On dit oui qu'il y a des stations adaptées, mais j'ai envie de dire qu'il y a 6 stations adaptées.
Oui.
Je pense qu'on est rendu peut-être à 9 là, dans la dernière année, mais ça, c'est quand les ascenseurs fonctionnent. Parce que récemment, j'ai vu quelqu'un que je connais bien qui est arrivé à une station, la station Berry-UQAM, qui est adaptée en temps normal, et l'ascenseur n'était pas fonctionnel. Puis ça, à ce moment-là, cette personne-là a dû faire demi-tour, reprendre le métro et se rendre à une autre station qui, elle, avait un ascenseur pour être capable de sortir de la bouche de métro. Donc,
oh,
tout ça, c'est extrêmement problématique de devoir...
Tout à fait, puis tout un détour. Hein?
Exactement, tu dois faire tout un détour, tu es en retard à ton travail, tu es en retard à tes engagements, à tes rendez-vous. C'est tout un problème avec lequel les personnes handicapées doivent conjuguer au quotidien. Puis, on doit toujours penser aux imprévus qui peuvent arriver. Là. Je pense que c'est des fois un petit peu fatigant, là, puis épuisant aussi mentalement.
Oui, c'est ça. Ça peut être aussi simple qu'un seuil de porte aussi.
Oui.
Bon, juste un petit peu là, qui crée bon, un empêchement là, pour entrer dans une pièce. Ça peut être plein de choses comme ça.
Oui.
Très simple. Mais enfin, c'est ça. C'est je pense que les architectes, enfin, bon, sont de plus en plus sensibilisés, mais il y a beaucoup de chemin à faire parce qu'évidemment, on pense à tous ces bâtiments qui ne sont pas adaptés et qu'il faut adapter. Alors, c'est...
Exact, ouais. Exact. Puis j'ai envie de rajouter aussi la neige, qui est un obstacle qui n'est pas nécessairement physique, qu'on ne peut pas nécessairement adapter, mais qui vient vraiment compliquer ma vie. Mm-hmm. Moi, au quotidien, quand il y a de la neige, c'est extrêmement difficile de me déplacer à l'extérieur, voire impossible quand il y a une certaine quantité de neige, là, de me déplacer seule. Donc ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas contrôler, auxquels on ne peut rien faire, mais auxquels on doit s'adapter toujours. Je pense qu'il faut le mentionner parce que c'est hyper important. Sinon, c'est sûr qu'il y a toutes les ressources qui sont pas adéquates, pas suffisantes pour toutes les personnes handicapées. Je peux parler aussi des parents d'enfants handicapés qui ont souvent besoin de répit, de ressources qui en ont pas, qui ont pas droit à assez d'heures, qui ont pas des rémunérations assez, je dirais, justes pour les gardiennes, qui doivent soit être spécialisées, qui doivent avoir des formations particulières. Pour le moment, les chèques emploi-service qu'on offre, là, qui est un nombre d'heures par enfant qui est alloué pour les enfants à besoins particuliers, est un salaire là, que je qualifierais de crève-faim.
Oui, de pratiquement moyenâgeux, finalement.
Exactement,
ouais.
Qui n'est pas adapté parce que ces enfants-là, on doit leur offrir des soins bien particuliers. Ces gens-là doivent avoir des formations, que ce soit les gavages, au niveau du transfert de l'enfant, tout ça, l'hygiène. Donc, ces enfants-là ont besoin des gens qui sont aptes à prendre soin d'eux, puis qui sont disponibles. Donc, ça prend des ressources financières peut-être un peu plus importantes que certains parents n'ont pas. Mais le coût du handicap, j'ai envie de vous dire que j'y reviendrai la semaine prochaine parce que ça sera mon sujet de chronique.
C'est un beau sujet, ça aussi.
Ça sera mon sujet de chronique la semaine prochaine, le coût du handicap en particulier, parce que il faut le penser, ça coûte extrêmement cher être une personne handicapée au quotidien. Puis j'avais envie d'en parler un petit peu plus profondément.
Pour combler tous vos besoins, effectivement. Bon, chaque chose doit pratiquement se monnayer, finalement. Oui.
Ouais.
Les services aussi de support psychologique, à ne pas négliger.
Oui, bien, il n'y en a pas, en fait, j'ai envie de répondre. Il n'y en a pas de disponibles souvent dans les centres de réadaptation. Moi, j'ai fréquenté un centre de réadaptation pendant de très nombreuses années qui desservait une grande partie du territoire de la Montérégie. Puis, il n'y avait pas de psychologue en service pour les personnes handicapées. Il y en avait seulement pour les enfants de 7 ans et moins. Donc, c'est problématique, à mon avis, parce que ça vient avec beaucoup de difficultés, beaucoup de questionnements pour certains parents, pour certains jeunes aussi. C'est difficile de devoir conjuguer avec ça au quotidien si on n'a pas les outils, le caractère pour. Donc, je pense qu'on se doit, en tant que société, de se dire qu'on a besoin d'aide des fois, puis que ça serait bien d'avoir du support qui est non seulement offert, mais adapté.
Exact,
à la
aussi,
personne, oui.
Bon, à cette situation-là. Et évidemment, tout le marché du travail.
Oui.
Ouais, c'est vrai.
Hein, oui, bien, c'est une grande question, en fait. Ben, moi, je suis chanceuse, je travaille ici, j'ai d'autres emplois. J'ai cette chance-là d'être capable d'occuper un emploi à mes pleines capacités. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Des gens ont certaines limitations plus importantes au quotidien qui nécessitent d'avoir quelqu'un à temps plein avec eux, qui sont pas capables de travailler ou qui a juste personne qui veut les engager. Puis ça, je trouve ça extrêmement triste parce qu'on le sait, les personnes handicapées sont des personnes aussi performantes que les autres, sinon même,
oui,
j'ai envie
sinon
de dire...
plus, hein,
plus,
parce que oui, bien sûr, parce qu'on a tout à prouver. Alors oui,
exactement.
Effectivement, oui, on veut faire nos preuves et puis prendre sa place. Et puis bon, on est prêt à travailler plus fort, bien souvent. C'est vrai, alors c'est avantageux pour l'employeur aussi. Donc, les sensibiliser à ce niveau-là, mais vraiment, c'est tout un défi, Annelise.
Oui, vraiment. Puis j'ai envie de dire, ben il faut que ça change. Puis je pense qu'en tant que société, on doit faire l'effort puis donner le mémo pour se dire qu'il est temps que... on évolue en tant que société, puis qu'on intègre les personnes handicapées à leur juste valeur, là, vraiment.
Ah bon, c'est, en fait, je sais que tout au long de l'été, on aura l'occasion d'aborder ces sujets, là, ici et là, quand même, dans le cadre de d'autres chroniques. Bien sûr, vraiment de belles questions. Enfin, puis toi, Anaïs aussi, pas Anaïs, mais Aya, ça a été... on rigole parce que je me trompe souvent de nom. Oui, c'est ça. Mais toi, Aya, c'était un beau sujet aussi. Alors, merci pour vos deux chroniques. Ça a été un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est ça, Aya Jennifer Ando et Anaïs Sabourin.
La peau, une abeille qui zézaye essaie de me piquer l'orteil. Mais toi c'est pas pareil, tu dis que toi la veille, ton cœur était dans l'eau. Mais moi je te dis réveille, regarde-moi soleil, c'est pas de mal la veille que t'enverras un pareil aussi beau. Et pour ce qui est de l'eau, je veux la boire, j'ai chaud. Chaud.
ta brute, voilà. Toi ma joie, je m'assois près de toi, tu es douce comme une soie.
C'était Pépé et sa guitare, il fait beau.
Et oui, Pépé et sa guitare qui sera donc au festival Vacances en spectacle à Pont-Rouge. Bonjour, on accueille Nathalie Lessard, coordonnatrice aux événements et au développement économique. Comment allez-vous?
Ça va très bien, ça va très bien. Il fait beau justement à Pont-Rouge, puis on est en pleine préparation pour le festival Vacances en spectacle qui va démarrer ce lundi 24 jusqu'au 29 juillet.
Alors oui, 5 jours de belles prestations, enfin. Et c'est un festival entièrement gratuit, là, il faut le mentionner, hein?
Absolument. Donc, c'est la 13e édition, puis on fait partie des rares festivals au Québec qui demeurent encore en accès totalement gratuit, et puis de voir des artistes de chez nous. Donc, Pépé et sa guitare vient de Saint-Basile, dans Portneuf. Sa famille a même la fonderie La Roche, très célèbre ici à Pont-Rouge. C'est un des plus gros employeurs de la ville de Pont-Rouge. Donc, on est très content de l'avoir avec nous. Donc, c'est lui qui va inaugurer le 24 juillet l'ouverture du festival. S'en suivra Laurent Jalbert. Donc, on est très content, on est fébrile de la de la retrouver. C'est la première fois qu'elle vient, en tout cas du moins, au festival Vacances en spectacle. Donc, on est vraiment très content. Et en première partie, en ouverture de programme, il y aura un talent local qui monte dangereusement sur les palmarès country au Québec. Il s'agit de Guy Dussault, qui sera des nôtres. Et ça se poursuit comme ça. Moi, je défile la programmation. Là, je me dis que
non, ben c'est-à-dire que oui, ben je pense bien, oui, ben c'est ça. Tant qu'à y être, on va aborder vraiment toute la programmation, puis on parlera de tout
absolument.
Ce qui est autour de la programmation par la suite. Mais là, on était rendu déjà au mardi 25 juillet. Donc, effectivement,
absolument.
Laurence Jalbert et Guy Dussault, donc en première partie. Et puis, il y a évidemment aussi Spinning Pistols Country Band.
C'est bien dit!
Ça, c'est le mercredi 26 juillet. Vraiment des gens qui sont très, très intéressants, qui ont des beaux parcours aussi.
Absolument. Puis ça, c'est vraiment pour les amateurs de country. Vous allez vraiment être choyés avec le Spinning Pistol Country Band qui reprennent finalement les grands succès du new country. Donc, ça va sûrement danser. Et en ouverture de programme, on a quelqu'un bien de chez nous, Stéphanie Bouchard, qui est vraiment un talent à découvrir, là, qui nous rend un hommage à Sheryl Crow. Et on poursuit avec, ça c'est vraiment, on est vraiment content de les avoir parmi nous. Ils ont fait la scène de la francophonie au Festival d'été de Québec samedi dernier, mais ils seront chez nous parce qu'ils viennent de chez nous. Il s'agit du groupe Carotté qui vraiment, je vous invite à découvrir ce groupe-là si ce n'est déjà fait. Je crois que leur plus gros tube, ça s'appelle « Chant de potes
». Oui. Non, mais c'est vraiment... ils sont très colorés, ouais.
Ah ouais, c'est très, très coloré. Ils appellent leur musique agro-punk trash traditionnel. Donc, c'est un heureux mélange puisque Médé Langlois, qui est à la tête du groupe, est un agriculteur très, très, très connu dans la région de Portneuf. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour, ça s'appelle chez Médé. C'est à Neuville, sur les chemins de la 138. Et donc, c'est vraiment une soirée très festive, traditionnelle, moderne. Et il va y avoir également Denis Côté, que d'aucuns se souviendront, qui a collaboré d'ailleurs au dernier album des Carottés, qui était jadis de la soirée canadienne, imaginez-vous. C'est un accordéoniste.
Oui, c'est un excellent. Phénomène. Oui, c'est un des meilleurs au Québec, apparemment. Hein?
Absolument, absolument. C'est le phénomène de Denis Côté, puis ça va giguer ce soir-là, c'est sûr et certain.
Ah ben oui, puis bon, il chante, mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'expérience comme animateur aussi. Alors vraiment, il sera intégré
absolument.
Tout le monde.
Ouais. Ah oui, c'est phénoménal. Ben, j'ai entendu parler, puis on a déjà beaucoup de gens qui nous appellent. Ah, Denis Côté, c'est rare qu'on le voit en plein air comme ça, à l'affiche d'un festival. On voulait lui rendre cet hommage-là. Surtout que ça apporte beaucoup de modernité avec sa collaboration avec Carotté, là, qui est un jeune groupe. Donc, on a vraiment hâte de le voir sur scène. C'est un phénomène.
Vous avez une bande-annonce, hein? Alors effectivement, on peut l'apercevoir. C'est ça, on peut très bien le voir dans la bande-annonce de Denis Côté. Je pense que c'est lui qui est devant, je ne sais pas, un petit casse-croûte.
C'est célèbre, ouais. C'est célèbre dans la région.
Exact.
C'est un casse-croûte qui est situé à Saint-Augustin des Morts. Puis d'ailleurs, ça fait l'objet de la pochette des Carottés là, qui mettent en valeur notre terroir poutinier québécois.
Oui, c'est ça.
Bien pour ne voir.
Notre, mais oui, bien sûr, enfin, nationale façon de parler, là, mais en fait, toutes les régions se disputent, en fait, revendiquent la meilleure poutine bien sûr,
moi,
à travers le Québec.
Elle se trouve sûrement à Pont-Rouge.
Il y a des chances, oui.
Qui s'appelle le casse-croûte Le Vieux Moulin.
Ouais.
Du Vieux Moulin, donc ça est très, très célèbre là, ici à Pont-Rouge. Puis vous pourrez venir manger une petite poutine avant d'aller danser avec les Carottés.
Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Absolument. Il y a bien des événements, on en reparlera, oui, dans votre région de toute façon. Mais bon, alors, c'est ça, là, on est rendu au vendredi 28 juillet.
Oui,
un hommage à
ça va brasser. C'est pour les nostalgiques et les fameux représentants par excellence du glam rock. Mm. Et j'ai nommé un hommage à Kiss avec le groupe Kissed qui avait fait nommément le Capitole de Québec en février. On est vraiment chanceux de les avoir. Et il me racontait, ce groupe-là, que c'est un des seuls groupes, du moins du Québec, autorisés par le groupe KISS lui-même. Et ils se sont déjà rencontrés à Montréal. Donc, on va inviter les gens, d'ailleurs, à se costumer à la façon de KISS. C'est vraiment un hommage très bien senti. Donc, non pas une caricature, là, mais vraiment avec les plus grands succès. On se rappelle « I was made for loving you, baby ». Puis je pense
que ça
va chanter.
Ah oui, tous ces grands succès, oui. Puis même les gens, les plus jeunes, quand ils découvrent Kiss, mais enfin, c'est comme c'est un groupe culte, finalement. Et puis, il y a vraiment des gens qui perpétuent les chansons, les grands succès de ce groupe. Alors, vraiment, un hommage à Kiss à 21h
ouais,
vendredi.
C'est très théâtral, hein,
oui, aussi.
Ben, vous l'avez vu. D'ailleurs, on invite les gens à aller voir la page Facebook d'événements Pont-Rouge, événements Pont-Rouge, événements pluriels, ou encore Ville de Pont-Rouge. Vous allez retrouver le vidéo qui met en son et en image toute la programmation. Vous allez voir que ça déménage et il y a même des effets pyrotechniques sur scène avec le crash de feu et tout ce qu'on reconnaît là,
oui, oui.
De Kiss là, va se retrouver dans ce spectacle. Et une belle découverte, en tout cas pour moi, Mark William qui va être en ouverture de programme. Et enfin, samedi le 29 juillet, sur la scène du Parc Lyon, on accueille hommage à Pink Floyd. C'est le 50e anniversaire d'ailleurs année de Dark Side of the Moon. Et donc, on en profite pour ces 9 musiciens sur scène avec le groupe Pulp Fiction, c'est vraiment à voir.
Ils sont excellents. Ils sont excellents.
Ils sont excellents. Ouais. C'est des gens qui sont réputés. Ils font beaucoup. Le kiosque est Dwayne Bélanger, si vous connaissez, sur les plaines d'Abraham. À chaque fois, ils remplissent. Mais là, c'est chez nous, à Pont-Rouge. On est vraiment très contents de les avoir en grande formation Donc, pour cet hommage à Pink Floyd, qui est un groupe légendaire du rock mondial.
Mais oui, c'est ça. Donc, on a l'habitude de ces groupes qui rendent souvent hommage à d'autres, à des groupes mythiques. Et puis, bon, alors celui-là est vraiment très, très bien. C'est vraiment intéressant. En tout cas, ça nous rend nostalgique, bien sûr. Mais c'est ça, donc, de cette époque, bien sûr. Donc,
oh,
cet hommage à Pink Floyd.
Extrêmement talentueux. Et qui plus est, tu sais, c'est vraiment... C'est carrément dans l'esprit de Pink Floyd, il n'y a pas de caricature non plus. C'est dans une exécution musicale là, vraiment incroyable. Les amateurs de musique, là, on vous invite à venir voir cet hommage à Pink Floyd. Et puis, en ouverture de programme, vraiment une fille hyper talentueuse qu'on voit beaucoup là, dans ces temps-ci, dans les montées dans les radios de Québec. Elle s'appelle Maude Carrier. C'est un talent à découvrir.
Oui.
Une voix extraordinaire.
Tout à fait. Tout en douceur. Non, vraiment, effectivement, c'est à découvrir ça aussi. Alors, vraiment, belle programmation. Et moi, je voulais revenir sur votre porte-parole, Pépé.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui vous a fait choisir Pépé comme porte-parole?
Ben écoutez, c'est quelqu'un de chez nous, c'est quelqu'un
vrai.
qu'on adore. Je croise justement, je viens tout juste de croiser sa tante en rentrant au bureau. Il n'y a même pas à peu près 15 minutes, juste avant qu'on se parle. Donc c'est vraiment Pépé, c'est vraiment quelqu'un de chez nous, on en est très, très fiers. Donc, nous, pour nous, c'est important là, de valoriser justement le talent, notre savoir-faire. Puis Pépé, c'est un bel exemple aussi. Il se promène partout au Québec. C'est quelqu'un qui roule sa bosse depuis plus de 10 années. Il est très, très en demande, mais on est content qu'il agisse
à
de porte-parole.
Un artiste, c'est ça, un artiste vraiment au bonheur infatigable. Enfin, il partage le secret du bonheur. Hein. Il vous fait passer par toute la gamme des émotions. Vraiment, il vous fait passer une excellente soirée. Alors, bon, c'est vrai que dans l'esprit de votre festival Vacances en spectacle à Pont-Rouge, c'est sûr que c'était, un porte-parole tout désigné, en effet.
Absolument, absolument. Puis il apporte la bonne humeur. Il est déjà venu au festival Vacances en spectacle à titre d'artiste qui n'était pas porte-parole à ce moment-là. Et c'est comme un peu une reprise parce qu'il pleuvait, mais à boire debout. Et puis, il y a un public tellement fan qui ont résisté. On parlait d'orage, là, c'est incroyable. Mais là, cette fois, j'espère que votre chanson annonçait qu'il allait faire beau. Ben, j'imagine qu'il va apporter cette chanson pour porte-bonheur, pour qu'on puisse avoir une super belle semaine.
Oui, je vous le souhaite, là, de toute façon. Bon, et puis c'est le début des vacances de la construction, en passant, donc vous allez avoir quand même certainement beaucoup de visiteurs. Là, c'est le gros pic de la saison,
absolument,
la saison estivale.
Absolument, puis le festival, c'est gratuit pour tous, on le répète. C'est au Parc Lyon, c'est tout juste à l'entrée de la ville. Vous êtes bienvenus à tous de l'extérieur, les visiteurs, on aime ça, puis souvent on les garde et décide de rester puis s'acheter une maison. Donc, c'est super agréable, on a des sites historiques tout à proximité aussi, la maison des Ries, on a des superbes rivières parce que c'est très couru, Pont-Rouge, parce que on a des panoramas extraordinaires sur la rivière aux Pommes ou encore la rivière Jacques-Cartier.
Vous avez de beaux événements. Ben, je pense il y a une belle des expositions aussi, notamment la Biennale internationale du lin de Portneuf. Oui, c'est ça, jusqu'au 1er octobre.
C'est un petit peu plus loin à Deschambault-Grondines, mais c'est dans le comté de Portneuf.
C'est ça, mais pour les gens qui vont visiter votre région, bien sûr, qui vont ratisser un peu plus large, là, c'est ça.
Ah, absolument, absolument. En passant par le chemin du Roi, Deschambault, qui est un village magnifique, Cap-Santé aussi, Neuville. Nous, on est tout à côté de Neuville aussi, qui est bordé par le fleuve. C'est vraiment magnifique. Venez voir un spectacle, venez nous voir, puis venez profiter du paysage et du calme de la nature.
C'est ça, oui.
Vraiment
des paysages bucoliques dans cette belle région de Portneuf, alors à découvrir, bien sûr. Alors, c'est ça. Donc, on ira vous voir maintenant. J'invite les gens aussi à aller voir votre bande-annonce, c'est très bien fait, là, en passant, oui. Puis bon, quand même, une bande-annonce qui nous donne tout le portrait de votre programmation de cette année. Alors, ça dure à peu près quoi, 5 minutes? Alors, c'est pour ça.
Un bon 4 minutes,
certain. Oui, c'est ça. Alors,
En 4 minutes, on a tout le panorama de ces 12 artistes qui vont faire la programmation de Vacances en spectacle.
Oui, c'est ça. Donc, vraiment. Très intéressant. Et puis, bon, à découvrir. Moi, j'invite aussi les gens à découvrir la région puis de s'informer aussi sur cette belle région. C'est ça qui est intéressant. Oui, on parle de festivals. Bien entendu, il y a des festivals partout dans nos régions, mais au-delà des événements comme tels, je pense que c'est aussi d'aller s'informer sur les régions, l'histoire, parce que c'est riche hein, à tous les niveaux. Puis je pense que chaque endroit a quand même développé tout ce qu'il faut pour qu'on apprécie, en fait, que l'on découvre ces régions de la façon la plus complète possible. Alors, vraiment, c'est à découvrir. Donc, Vacances en spectacle, c'est une belle activité à faire dans la prochaine semaine. Donc, à partir de lundi, à ne pas manquer. Nathalie Lessard, ça a été un plaisir de vous accueillir, coordonnatrice aux événements et au développement économique. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine.
Bien, c'est bien gentil. À la prochaine.
Au plaisir. Eh bien oui, de beaux événements un peu partout au Québec. Et puis, comme je le disais, ben, c'est le début des vacances de la construction demain. Alors, vous serez nombreux à parcourir le Québec et à découvrir tous ces beaux festivals, ces beaux événements. Bon, évidemment, demain, on a des conditions météo dans le sud-ouest du Québec qui seront un petit peu plus compliquées, là. Mais évidemment, ça pourrait brasser encore demain. Alors, c'est à suivre. De toute façon, on sera là, nous, à M l'été, entre midi et 13h. Ici Chantal Lavoie, ça a été un plaisir de vous accueillir encore une fois. Merci à Méliane Fafard pour la recherche. Merci à nos chroniqueuses. Et merci à Nicolas Wartmann à la mise en onde et au choix musical. Alors, je vous retrouve à demain. Merci d'avoir été là. Et c'est ça, bon après-midi à vous tous.